Une bonne nouvelle d'après Marc. Lecture suivie de l'évangile de saint Marc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Les trois premiers jours de la semaine, nous l'avons vu dans le 9e épisode, ont été consacrés à la mise en place de ce décor, idéologique, dans lequel tout doit se placer. Ce qui va se passer aussi pour la deuxième partie, juste avant ce que nous appelons la passion. Il faudra dire à chacun ce qu'il doit entendre et mettre toutes les choses en place pour le dernier acte, l'acte suprême. Avançons vers le 4e, 5e et 6e jour.
Ceux qui s'étaient reconnus cherchèrent à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Tous avaient fort bien compris qui était visé, on les montrait du doigt. Prêtres, scribes et anciens quittèrent précipitamment la place. Mais ils lui envoyèrent bientôt quelques pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un nouveau piège. Décidément, pensait Jésus, en les voyant tout miel. « Maître, commence-t-il, nous savons que tu es un homme vrai. » Tu ne te mêles de personne et tu ne tiens pas compte de la qualité des gens. En revanche, tu indiques toujours le chemin de Dieu avec la vérité. Après une telle entrée en matière, que préparait-il? Eh bien, dis-nous, est-il permis de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non? Jésus démasque de suite leur hypocrisie. Pourquoi ne cessez-vous pas de me tendre des pièges? Eux jouent les offensés. « Faites-moi voir un denier. »« Cette effigie, de qui est-elle ? Et cette inscription ? De César. »« Eh bien, ce qui est à César, rendez-le lui. »« Et ce qui est à Dieu. » Il aura à peine coupé le souffle, qu'arrive déjà la vague suivante. Les Sadducéens, une secte qui ne croit pas à la résurrection des corps ni à la vie éternelle, « Maître, commence-t-il aussi, Moïse a écrit à notre intention... Si un homme meurt en laissant sa femme sans enfant, son frère, s'il en a un, prendra la veuve pour femme afin de donner une descendance à son défunt frère. Or, il y avait 7 frères. Jésus faillit éclater de rire à l'avance, devinant l'astuce aussi lamentable que ridicule. Le premier prend femme et meurt sans descendance. Le deuxième épouse la veuve et meurt lui aussi sans enfant. Le troisième, et tous font de même. Tous les auditeurs pouvent de rire. Jésus a de la peine à se contenir. Enfin, la femme meurt à son tour. La cour du temple résonne d'un grand éclat de rire. Eux, imperturbables, continuent. Au jour de la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle devenue la femme? Vous racontez n'importe quoi, enchaîne Jésus. Vous ne connaissez ni la Bible, ni la puissance de Dieu. Dans la vie éternelle, il n'y a plus de mariage. Nous serons comme les esprits. Mais les morts, ça oui, ils se relèveront. N'avez-vous pas lu dans le volume de Moïse, dans le récit du buisson ardent, comment Dieu lui parle? C'est moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Vous gesticulez dans les plus grossières erreurs. À cette dernière remarque, qui soulève l'hilarité et l'enthousiasme de la foule, passe un scribe qui avait entendu toute la finale et manifeste son accord total avec Jésus. Jésus le regarde et l'invite à parler s'il veut. « Eh bien, dis-moi, quel est le premier de tous les commandements ?» Sans avoir besoin de réfléchir, Jésus répond « Le premier commandement, le voici. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. » Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et le deuxième, le voici. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu dis vrai. Il est un, et il n'y en a point d'autre. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force... Et aimer le prochain comme soi-même, c'est plus important que tous les pèlerinages et tous les sacrifices. » C'est avec un grand bonheur que Jésus ajouta, « Tu n'es pas loin du règne de Dieu. » Le scribe s'inclina, s'éloigna, et personne n'osa plus l'interroger. Lui continua de s'adresser à la foule. Il était heureux de voir les visages satisfaits des 12, qui étaient fiers de lui et fiers d'être là. C'est lui qui lança la première question oratoire. « Comment les scribes peuvent-ils soutenir que le Messie est fils de David ?» David lui-même, sous le coup de la sainte inspiration, a chanté « Parole du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Si David lui-même l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ? Quelle joie sur le visage de toutes les petites gens qui retrouvaient avec Jésus leur humeur et leur dignité. Gardez-vous des scribes, ils veulent marcher avec de longues robes, ils cherchent les salutations dans les marchés et les premières stalles dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Mais ces chacals du bien des veuves qui jouent les dévots à n'en plus finir, ils recevront la pire condamnation. Pour faire une pause, il parlait depuis plusieurs heures déjà. Jésus s'assit devant le trésor et il observait les fidèles y jeter des pièces de monnaie. Il aperçut une veuve justement, une pauvre apparemment, qui vint y jeter 2 centimes, 1/4 sou. Et Jésus de confier à ses compagnons assis autour de lui. « Moi je vous dis que cette pauvre femme a jeté dans le trésor bien plus que tous les autres. Tous y sont allés de leur superflu, mais elle, alors qu'elle est misérable, elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. » C'était la fin de la journée, et ils quittèrent de nouveau le temple pour les hauteurs environnantes. En remontant la pente vers Béthanie, un des compagnons se retourna pour contempler Jérusalem dans l'or du soleil couchant. « Maître, regarde. Ah, ces pierres, quelle construction !»« Tu contemples ces grands édifices ?» répliqua Jésus. « Sais-tu qu'il n'en restera pas pierre sur pierre ? Tout sera détruit ?» Ils étaient à présent sur la hauteur du mont des Oliviers, d'où on a la plus belle vue plongeante sur le temple. Pierre, Jacques, Jean et André, les 4 premiers apôtres, prirent Jésus à part. « Dis, sais-tu quand cela doit arriver ? Y aura-t-il des signes ?» Jésus s'assit sur une murette de pierre plate qui courait tout au long du chemin, et se mit à leur répondre longuement. « Attention, ne vous laissez pas abuser. Vous allez en voir beaucoup venir vous dire « c'est moi ». Et ils en mystifieront beaucoup. Et puis, vous connaîtrez guerre sur guerre. N'ayez pas peur, c'est inévitable. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les nations s'affronteront, les États se dresseront les uns contre les autres, la terre tremblera un peu partout et il y aura des famines. Ce sera alors le commencement de la fin. Soyez prêts. On vous traînera devant les tribunaux, on vous frappera dans les synagogues, et on vous fera comparaître devant des tyrans et des rois à cause de moi. Et vous serez mes témoins devant tout le monde. C'est à tout l'univers qu'il faut me faire reconnaître. Quand vous subirez des interrogatoires, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous avez dans le cœur, dites-le. Ce n'est pas vous qui parlerez alors, mais l'Esprit même de Dieu. Le frère livrera un frère. Le père un enfant. Les enfants se dresseront contre les parents et les mettront à mort. Vous serez haïs par tous à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Les compagnons, atterrés, n'en croyaient pas leurs oreilles. Ah, quand vous verrez l'abominable désolation régner là où il ne faut pas, alors que tous les habitants de Judée fuient dans les montagnes. Si vous vous trouvez sur la terrasse, ne descendez pas dans la maison. Si vous êtes en plein champ, ne retournez pas chercher votre manteau. Malheur aux femmes enceintes et aux nourrices. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Ces jours connaîtront une détresse, comme si il n'y en aura jamais plus après. Si Dieu n'abrégeait ces jours, personne n'en échapperait, mais à cause de ses fidèles, il le fera. Si on vous dit alors, « Voilà le Messie » ou « Le voici », n'en croyez rien. De faux messies et de faux prophètes vont se multiplier. Ils seront capables de faire des tas de choses extraordinaires pour égarer, si possible, même ceux qui croient en Dieu. Faites attention vous-même. Je vous aurai averti. Puis après cette grande détresse, le soleil deviendra mort. La lune terne, les étoiles déserteront un ciel vide et ébranlé. Et le Messie viendra, divin, puissant, glorieux. Il enverra ses messagers des quatre vents. Il rassemblera ses fidèles, du bout de la terre au bout du ciel. Quand vous demandez quand, eh bien, prenez le figuier. Sitôt que son branchage deviendra tendre et qu'apparaissent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De la même façon, quand ces événements se produiront, vous saurez que c'est pour bientôt. Je vous dis que l'humanité ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le jour, l'heure, personne ne les connaît, pas même les messagers, pas même le Fils, le Père seul. Attention, restez en alerte. Quand un homme part en voyage, il confie toute sa maison à ses serviteurs, chacun selon sa tâche, et il rappelle au portier de bien veiller. Veillez donc. Vous ne savez pas quand va venir le maître de la maison. À minuit, au chant du coq, craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ils étaient complètement sonnés. Alors Jésus conclut, ce que je vous dis vaut tous et chacun. Veillez.
Tout est clair, les points sont sur les i, César et Dieu ne feront jamais bon ménage, Dieu est un Dieu des vivants et pas des morts, c'est-à-dire que notre vie est éternelle. Et enfin, les dernières recommandations, attention, ne vous laissez pas abuser, ne croyez pas bêtement tout ce qu'on vous raconte, écoutez tout. Jugez, discernez, mais sachez qu'il faut veiller, toujours veiller.
C'était Une bonne nouvelle selon Marc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.